Et surtout que quand j'ai vendu à 200 millions d'euros, 15 jours après, c'est la bulle qui a éclaté. Parce que j'ai vendu en mars 2000, tu regarderas, la bourse s'est écroulée 10 ou 12 jours après.
Il vend son entreprise 200 millions mais va tout perdre et se retrouve avec 30 millions de dettes.
J'avais en dette ce que je pensais avoir en argent. Ça fait un choc. Et là, de coup, Mythic est devenu ma seule planche de salut. J'avais pas le choix pour rembourser ce que je devais aux banques. Il fallait que Mythic marche.
Dans cette conversation, tu trouveras comment trouver son idée de projet, rebondir face à la peur de l'échec, comment cartonner et comment apprendre à gérer la peur du regard des autres. Nous sommes avec Marc Simoncini, le fondateur de Mythic et Sensi. Il a trois casquettes, entrepreneur, business angel et producteur dans le cinéma. Peu d'entrepreneurs osent parler à ce point de leur échec et ça, ça fait du bien. Bienvenue dans la tête d'un des plus gros entrepreneurs français. Vous écoutez le podcast Business Tribe.
Comment tu as eu l'idée de Mythic ?
Oh ben c'est simple, j'avais quatre copains qui étaient, enfin trois copains plus moi, ça faisait quatre qui étaient mes trois copains, trois témoins de mariage. Et puis quelques années plus tard, les trois ont eu des difficultés conjugales, et ils m'appelaient, et moi j'étais toujours marié, et ils m'appelaient pour me raconter leurs histoires, et ils divorçaient, ils allaient divorcer, ils savaient pas s'ils devaient divorcer. Enfin, je passais des heures au téléphone pour parler de ça. Et les trois me disaient, je trouve personne, parce que bah je suis trop vieux pour aller en boîte, au bureau ça se fait pas, en vacances personne n'invite un mec tout seul. Et donc, je suis allé me coucher après avoir dîné avec les trois et j'ai dit, mais merde, moi, je connais très peu de gens, je connaissais vraiment pas grand monde et il y avait trois personnes qui trouvaient pas. Donc, je me suis dit, ben, il y a bien avoir trois filles s'il y a trois garçons. Et donc, la nuit, j'ai cogité et j'ai dit, je vais peut-être faire un site où mes trois copains, il y aura trois filles et trois ans plus tard, on était 12 millions. Et donc, il y a bien un besoin.
Et donc, à la base, tu crées un site qui s'appelle Mythic direct
ou ouais, c'est... à la base, j'avais vendu ma première start-up, j'avais vraiment plus rien à faire, je pensais que j'étais riche à l'époque parce que j'avais pas encore tout perdu. Donc, je me disais, bon, il faut. Je voulais ça pour m'occuper. J'avais dit à ma femme, écoute, franchement, je sais plus quoi faire le matin. Donc, je vais monter un petit truc, ça va m'occuper. Je vais trouver un nom sympa. Et puis voilà. Et puis après, c'est parti très, 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 très vite.
Donc, d'ailleurs, c'est super. Donc, tu crées ça sur un site d'annonce. Tu crées un site d'annonce où, en gros, tu mets les profils de tes potes.
Ouais, alors bon, j'ai fait un peu plus qu'un site d'annonce parce que quand j'ai commencé à réfléchir au concept, je me suis dit, mais après tout, il n'y a pas de truc qui existe, quoi. Si moi, j'étais célibataire, j'irais où? Et je voyais pas où je pouvais aller. Et puis je me suis dit, si une jolie fille de 35 ans qui bosse dans la pub, elle est seule, elle irait où? Donc je me suis dit, elle va pas aller sur des trucs, il y a des trucs minables, graveleux, moches. Enfin bon.
Donc j'ai dit. C'est payant dès le début?
Ouais, j'ai dit, il faut faire une boîte de nuit très chère. Parce que si moi j'étais une fille ou un mec, je préfère aller dans une boîte de nuit chère où on me laisse rentrer que la boîte de nuit gratuite où il y a tout le monde. C'est idiot, mais c'est contre-intuitif. Pourtant, c'est la réalité. Donc j'ai dit, voilà, il faut que le truc soit cher, il faut que ce soit très sécurisé. Moi, si je suis une jeune fille, il ne faut pas qu'on m'emmerde dans une boîte de nuit, donc c'est surveillé. Et donc j'ai conçu tout le truc en me glissant dans la peau d'une femme, en disant pourquoi une fille de 35 ans, jolie ou pas, ou Dieu sait quoi, irait sur Internet. Et en me mettant dans la peau de cette fille, j'ai enlevé tous les irritants qui l'empêchaient de le faire. Et ça a donné Mythic.
Et est-ce qu'à l'époque, on te dit, non mais on a l'air d'un peu de l'Internet gratuit, est-ce qu'on te dit, mais on ne peut pas faire un truc payant comme ça?
Mais tout le monde me dit ça. Tout le monde me dit, mais t'es malade, tout est gratuit, qu'est-ce que tu vas faire ça? Ça coûte une fortune à l'époque, on vendait les abonnements, je crois que c'est 29 euros par mois. Enfin, c'est... Je dis, ouais, mais plus les gens paient cher, plus ils ont l'impression d'être dans un endroit luxueux.
Privé.
Et finalement, ça valorise eux-mêmes. Ça a très bien marché.
Ça a très bien marché. Et tu parles juste avant. Donc avant, tu avais une start-up que tu as vendue. Alors du coup, je me confonds entre les euros et les francs. Je sais plus si c'était en.
Non, moi aussi, je me suis confondu longtemps. Non, je l'ai vendu. Je l'ai vendu à Vivendi. À l'époque.
Donc c'était 160 millions, 180 millions
d'euros.
D'euros. 180 millions d'euros que tu arrives à vendre à ce prix-là. Et juste après, comment ça se passe pour toi d'avoir vendu une entreprise à ce prix-là, en fait?
Bah déjà, tu sais, d'abord, j'avais pas toute la boîte. Hein, j'en avais qu'un quart. Deuxièmement, avec l'argent que tu touches, tu payes les impôts avec le cash. Donc le cash est reparti dans les impôts. Et ce qui m'est resté, c'est des actions Vivendi qui valaient 70 ou 80 euros à l'époque. Donc moi, j'étais à la tête d'une fortune en papier Vivendi. Hein. C'était ça ma vie. Ça, c'est l'aspect financier. L'aspect perso, c'est quand même, je me suis tapé une petite dépression parce que j'avais beaucoup bossé depuis 1989. J'avais cette start-up, tu imagines. Ça faisait 11 ans que je m'en occupais.
Quand tu dis beaucoup bossé pour quelle durée?
18 heures par jour. Je faisais que ça. J'avais pas de week-end, j'ai pas pris de vacances pendant 10 ans, prenais un week-end de temps en temps. Non, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé. Donc j'avais ce rythme-là. Du jour où j'ai vendu, c'est un peu comme si le matin, t'avais plus rien à faire quand tu te lèves. Donc ça a été dur à gérer. Et donc j'ai simultanément perdu mon job et après perdu mon argent, puisque les actions Vivendi qui valaient qu'à 70 euros, elles valaient plus cuites, quoi. Donc j'avais en dette ce que je pensais avoir en argent. Donc quand vous pensez que vous avez 10 000 euros sur votre compte et qu'un matin on vous dit que vous avez 10 000 euros de dette, ça fait un choc. Et là, de coup, Mythic est devenu ma seule planche de salut. J'avais pas le choix pour rembourser ce que je devais aux banques. Il fallait que Mythic marche. Donc du coup, ça m'a sauvé la vie de tout perdre. puisque si je n'avais pas tout perdu, je n'aurais jamais travaillé comme j'ai travaillé pour Mythique. Donc finalement, on ne sait jamais. Peut-être que tout perdre, c'est la plus belle chance de votre vie.
Ça peut paraître fou de dire comment, comment ça peut être une belle chose de perdre, d'avoir 30 millions de dettes.
Bah, d'abord parce que ça te donne une énergie de dingue, c'est que tu n'as pas le choix. Franchement, faire quelque chose, et de n'importe quoi que tu fasses dans ta vie, en n'ayant pas d'autre choix que de réussir, ça donne une énergie extraordinaire. Plutôt que d'avoir déjà tout et puis d'essayer d'avoir un peu plus. Quand on n'a vraiment plus rien et qu'on doit se sortir du truc, c'est une énergie folle. Donc ça, c'est une chance. Et puis, tu peux adapter ça à n'importe quoi dans la vie. Ça peut être une entreprise, ça peut être une histoire d'amour, ou tu as une histoire d'amour qui s'arrête et tu dis, ça y est, tout est foutu. Sauf que c'est le début d'une autre. Et peut-être que l'autre est mieux que celle d'avant. Donc bon, finalement, il n'y a jamais vraiment de fin. Il vaut mieux voir le début de chaque nouvelle aventure. Donc quand quelque chose s'arrête, quand tu perds, tu regardes ce qu'il va y avoir après.
Et du coup, toi, avant de le vivre, est-ce que tu avais peur, par exemple, de faire faillite ou peur d'avoir pas assez d'argent? Est-ce que ça avait, c'est une peur que tu avais?
Bah ouais, moi, j'avais rien. Déjà, le peu que je gagnais, c'était compliqué. Mais alors, j'imaginais que si j'avais même plus ça, c'était chaud. Non, non, moi, j'ai vécu des années de galère. J'étais obligé de vendre ma bagnole pour payer mes salariés. J'habitais dans mes bureaux, je dormais par terre dans les combles. Ah non, 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 non. Non
à l'époque, tu avais peur que ça t'arrive, ce truc-là?
Bah, c'est-à-dire, je me souviens que pendant des années, j'étais content. Quand je voyais ma vie à un mois, quand je savais que je pouvais payer mon loyer à la fin du mois, j'étais content. Je me rappelle me dire « Waouh, ouais, putain, ce mois-ci, c'est génial !»
T'avais quelle société, ça?
Bah, ma première, maintenant, ma première, elle était encore plus vieille, je l'avais créée en 85. C'est une, ça, je développais du soft sous Unix. Ah, j'avais des clients de temps en temps qui payaient. Et là, je me souviens, alors je l'ai créé en 85, j'ai déposé le bilan en 89. Donc pendant 4 ans, avec un an d'armée au milieu, parce que j'ai été appelé sous les drapeaux, j'avais oublié qu'il fallait que je fasse l'armée. Donc 3 ans, j'étais content quand je payais mon loyer. Je sais que je me disais, waouh, cela, ma vie est super parce que je sais que je paye mon loyer le 30. Donc oui, les mois où je ne pouvais pas payer le loyer, j'étais en stress. Donc ça fait des années de stress quand même.
Et du coup, avoir vécu ça, est-ce que ça t'a libéré un peu de la peur de tout perdre?
Ben, c'est-à-dire, moi, j'ai tout vécu. Enfin, j'ai vécu la galère. Bon, ça, évidemment, je ne suis pas le seul, et de loin. Mais qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai vendu e-France qui valait rien.
Une fortune. Ce que c'est e-France.
Ouais, e-France, c'était des sites les blogs. C'est comme si tu disais aujourd'hui des blogs. Les gens, ils venaient, mettaient des sites perso. Sur le Point de Croix, Jean Ferrat ou la Boxe Taille, ils mettaient des pages, les gens venaient visiter les sites, puis moi je mettais des bannières de pub pour rembourser l'hébergement. Franchement, c'était pas compliqué, mais c'était énorme en termes de trafic. Et ça, je l'ai vendu une fortune.
Et tu peux raconter ce que j'adore de trois anecdotes que j'ai entendues de toi, où on te propose différentes sommes, t'as des grands patrons qui t'appellent, tu peux raconter?
Ah ouais, ben, on a été approchés pour, de mémoire, vendre le site pour 100 millions de francs à l'époque. Bon, moi, 100 millions de francs, c'était dingue, j'avais rien depuis toujours, et il y a un mec qui me propose 25% de 100 millions de francs. Enfin, tu vois, c'était un truc... Et donc, je me dis, c'est génial, bien sûr que je vends, moi... 25 millions de francs, c'est dingue, quoi. Et donc, on vend, enfin, on signe. Et puis, les acheteurs, qui étaient très sympas, c'était un groupe que vous avez tous oublié, qui étaient des Suédois très sympas, nous disent, on fait une fête ce soir, on vous invite à la fête. Et donc, je vais avec mon associé à la fête. Et toute la soirée, les Suédois viennent me voir en disant, vous oubliez pas, demain, vous venez signer. Je dis, oui, je sais, je prends 25 millions, je vais quand même mettre un réveil, quoi. Et deux fois, trois fois, quatre fois. Et je vais me coucher à 3h du mat et j'arrive pas à m'endormir. Je me dis, mais attends, mais un mec, il te fait un chèque de 100 millions pour un truc qui vaut rien. Si en plus il t'appelle 4 fois.
Quand tu dis vaut rien, qu'est-ce que tu veux dire?
Mais e-France, ça valait rien. Ça faisait peut-être 2 millions de chiffre d'affaires, tu vois. C'était un truc, ça valait cher parce que l'audience valait cher à l'époque, mais objectivement.
Mais dans ta tête, tu disais ça vaut pas 100 millions.
Ben non! Ça valait 2 millions, tu vois, ou 3 peut-être. Mais bon, après que des gens le valorisent à ce prix-là, c'était la mode à l'époque. Donc moi, j'ai fait comme tout le monde. Et donc, j'ai appelé mon associé, j'ai dit, moi, Thierry, il y a un truc qui est bizarre, quoi. Le mec, il te fait un chèque de 100 millions et il t'appelle 5 fois pour que tu viennes le chercher. Il me dit, ouais, je le sens pas. Je dis, bah, on vend pas. Il m'a dit, bah non. Donc dans ma tête, je déchire mon chèque de 25 millions de francs la nuit, quand même. Je repars avec rien. Et je me dis, waouh, le matin, je pense que j'ai fait une énorme connerie, quoi. Et 3 mois plus tard, on vendait à 200 millions d'euros. Donc, heureusement qu'on n'a pas. Il faut, voilà, bon. Et à un moment, il faut prendre des risques.
Et d'ailleurs, tu parles de ton obsession pour le timing. Mmh. Donc là, à 2 mois près, ça fait une petite différence.
Ouais. Et surtout que quand j'ai vendu à 200 millions d'euros, 15 jours après, c'est la bulle qui a éclaté. Parce que j'ai vendu en mars 2000, tu regarderas, la bourse s'est écroulée 10 ou 12 jours après. Donc j'ai vendu exactement dans la dernière semaine où e-France valait ça. 15 jours après, ça valait 2 millions.
C'est fou. Tu peux raconter dans le même, dans, dans cette même idée du timing, le moment où t'as rendez-vous à Londres.
Oh là là.
Et
j'avais compris qu'il fallait que je vende Mythic très vite pour rembourser mes dettes. Même si je pensais que Mythic allait devenir énorme, je pouvais pas attendre que ce soit énorme. Et si quelqu'un me faisait une offre qui payait mes dettes, j'aurais déjà été content.
T'avais combien de dettes à ce moment-là encore?
Je devais avoir 20 millions d'euros de dettes, un truc comme ça, ou 15 millions, enfin 17, je sais plus, enfin beaucoup.
Donc 5 dettes avec du coup un salaire qui...
Avec un salaire de rien. Donc il fallait que je travaille 1000 ans pour rembourser mes dettes. J'avais pas de capital, j'avais rien. Donc le premier mec qui remboursait mes dettes, j'étais au paradis. Donc il y a quand même un grand groupe américain qui m'approche et qui me dit, voilà, on veut regarder Mythic, on entend beaucoup parler. Et Yahoo, parce que le patron de Yahoo était venu en France, il avait visité tous les grands médias. À l'époque, Yahoo, c'est un truc de dingue. Et à chaque fois qu'il était à l'accueil chez TF1, chez M6, chez Orange, il y avait des jolies filles derrière l'accueil avec des écrans qui étaient sur un site. Et le mec dit, mais c'est bizarre, ça fait 4 fois que je vois des gonzesses sur ce site-là. Et le mec dit, ouais, c'est Mythic. Donc il s'est dit, c'est quoi ça? Et donc il était allé voir Mythic, il avait dit, c'est génial. Et donc le patron américain me dit, il faut que je vous voie. Et là, ils me disent, on veut vous acheter. Et l'autre groupe américain, qui est Match, me dit, on peut vous acheter. Et je me dis, c'est génial, j'ai 2 acheteurs. Mais ils étaient tous les deux en Angleterre. Et donc je dis, je prends un Eurostar et je vais négocier la vente de Mythic en Angleterre. Et je donne rendez-vous à IAC, puis à Yahoo. Avec une heure de décalage dans le même resto. Je me dis, je fais une heure avec un, après l'autre arrive. Et je m'installe au restaurant, je suis avec Yahoo, et là, qui je vois arriver, le mec de Match. J'avais merdé dans l'heure de plus, l'heure de moins, entre les 2 rendez-vous, et j'avais donné rendez-vous à la même heure aux 2 acheteurs.
Et quand tu vois ça, tu le vis comment?
Je me suis dit, c'est pas mal, parce que finalement, les 2 savent que je discute avec les 2. J'aurais dû le faire exprès, c'était encore plus brillant, mais je pourrais raconter ça, hein. Je pourrais dire, j'ai été génial, j'ai fait ça. Non, en fait, c'est une erreur.
Et donc, du coup, la personne te propose 40 millions, c'est ça?
Alors, il m'a écrit un chiffre sur un post-it pour la valeur de Mythic. Et donc, il a mis 40 sur un post-it, il m'a tendu le post-it. Moi, j'avais le post-it à 40, je crois que je ne payais pas mes dettes. Parce que ça devait être en dollars, enfin bon, et oui, il me restait rien, enfin, j'en sais rien. Et j'ai repris le post-it, j'ai barré 40, j'ai mis 60. Et là, j'ai retendu le post-it, et là, j'ai dit, oh mec, t'es un abruti ou quoi? Parce que 40, c'était génial pour moi. Et il a déchiré le post-it. Et là, j'ai dit, merde. Sauf que le même mec, il a fini par acheter ça 500, 10 ans plus tard.
Alors, du coup, quand tu parles du timing, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre?
Ça ramène à une question plus fondamentale qu'est l'intuition. Le timing, ça, rationnellement, ça veut rien dire. C'est quoi? C'est que t'as l'intuition qu'il faut faire un truc maintenant ou t'as l'intuition qu'il faut pas le faire maintenant? C'est l'intuition. L'intuition, c'est une somme de plein de choses, et notamment de chance. De
et toi, rêver. Tu la ressens comment? Est-ce qu'il y a différentes formes? Est-ce que c'est quelque chose que tu
moi,
ressens
physique?
Moi, je l'écoute.
Je l'écoute. J'ai appris à l'écouter parce que ton rationnel, il lutte contre ton intuition en permanence. Ton premier cerveau, il dit, faut faire ça. C'est que tu as un truc qui te dit, bien sûr que non, mais il faut écouter tes sensations. Ça ne dit pas forcément toujours les mêmes choses.
Et c'est ce que tu observes, vu que tu as un fond pour les startups, est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de startups qui... peut-être n'arrivent pas à avoir le succès qu'ils pourraient avoir parce qu'ils sont trop dans leur tête à ne pas écouter assez d'intuition.
Ouais, mais d'abord, ça s'apprend, c'est une science qui s'apprend. Quand tu vois des gamins qui arrivent, ils ont 25 ans, 30 ans, et que tu leur commences à leur expliquer, en disant, attends, mon gars, je t'explique un truc. Déjà, il faut que tu écoutes ton intuition. C'est quoi l'intuition? Il faut que tu enlèves ton rationnel, il est où? Il faut que tu t'assoies un peu sur ton ego. Que le mec, à peine, il a de l'ego, on l'a déjà lui dit qu'il faut s'asseoir dessus. Il faut une maturité. Tu ne peux pas, tu peux pas naître avec ça. Il faut des années, des chèques. Pour te dire, putain, finalement, pourquoi j'ai échoué autant de fois? Alors, cette fois, c'était l'ego, l'autre fois, c'est j'ai pas écouté mon intuition, l'autre fois, j'ai été trop vite. L'autre fois... Et quand tu as une somme d'échecs suffisante, tu commences à intégrer ça dans ton logiciel et tu dis, avec ça, je vais fabriquer une intuition. Ça, tu l'as pas à 25 ans. Il y a très peu d'entrepreneurs qui réussissent à 25 ans. Il y en a. Il y a des génies partout, il y a des mecs qui ont du bol partout, mais l'immense majorité des gens, il a fallu qu'ils prennent beaucoup de portes dans la figure pour construire une intuition. Pourquoi moi, j'ai refusé un chèque de 100 millions? Parce que je savais ce que t'es 1 million. Parce que toute ma vie, j'avais essayé de gagner 1 million de chiffre d'affaires, je parle, tu vois. Donc, je savais la valeur de l'argent. Donc, il ne faut pas aller trop vite, il faut prendre des portes, il faut échouer. Et tout ça, ça construit une expérience.
D'ailleurs, en parlant de prendre des portes, alors pareil, pour prendre une phrase que tu as dit, tout le monde peut y arriver. Ça dépend de combien de baffes vous êtes prêt à prendre la figure.
Exactement.
Alors, j'aimerais que tu expliques ça et ce que ça veut dire pour toi, en fait. Parce que tout le monde peut y arriver, mais ça dépend de combien de baffes vous êtes prêt à prendre la figure.
Si tu te fixes un objectif et que tu échoues, t'as 2 réactions. T'en as 3. Soit tu dis j'arrête, je suis pas capable. Soit tu dis c'est pas de ma faute. En général, c'est la réponse. Soit tu dis que je sois pas capable ou que ce soit pas ma faute, je recommence. Mmh. Alors, en gros, t'as 3 réactions. Bah, le vrai entrepreneur, c'est celui qui va échouer, et échouer, et échouer, et échouer, et qui va se prendre une baffe à chaque fois, mais qui à chaque fois va recommencer. Donc c'est la résilience. La clé de l'entrepreneur, c'est la résilience. C'est combien de temps je vais prendre des baffes dans la gueule avant de dire c'est pas pour moi ou j'arrête. En général, la résilience, elle est conçue sur une douleur. Et une douleur, ça crée une urgence de revanche. Si tu as souffert beaucoup dans ta jeunesse, par exemple, tu as une revanche à prendre. Cette revanche, elle te donne une force de dingue. Cette force de dingue, elle te donne la force de prendre des claques. Si tu n'as pas ce moteur au fond, alors ça peut être l'ego, ça peut être, il y en a plein des forces enfouies. Mais si tu n'as pas cette force enfouie qui te donne le courage et l'énergie de prendre des claques dans la tronche, je pense que tu arrêtes.
Et du coup, ton moteur, il vient d'où, toi?
Il vient d'histoires personnelles pas forcément super et qui m'ont donné beaucoup, beaucoup, soit de résistance à la douleur.
C'est des choses dont tu peux parler ou pas?
Non, pas vraiment.
Ok.
Non. Donc... Mais il y en a toujours un. Voilà. Dans les gens qui ont réussi, tu verras, si tu grattes, il y a toujours un truc qui...
Il y a eu des événements dans ton passé, en tout cas, qui ont été difficiles pour toi à vivre et qui ont créé un peu ce feu.
Exactement. Donc après, ça peut faire de l'ego, ça peut faire de la colère, ça peut faire de la revanche, ça peut faire de l'énergie, ça peut faire... Il y a des tas de sentiments qui peuvent naître de ça. Qu'importe le sentiment, il y a un moteur qui tourne dans le bide qui fait que tu vas de l'avant. Si tu n'as pas ça, tu as intérêt à être un putain de bon entrepreneur et réussir du premier coup. Et du coup, moi, tous ceux que je connais, tu vois, qui ont vraiment réussi,
ils ont ce truc.
Ils ont quand même un truc à taper fort, quoi.
Mais du coup, c'est en soi une bonne nouvelle. Si quelqu'un nous écoute et qu'il a vécu quelque chose de difficile,
c'est un super moteur.
Ça peut l'utiliser.
Parce que soit il l'utilise pour se détruire en disant « Oh là là, j'ai pas eu de bol, il m'est arrivé ça, ça, là, 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 là. » Et là, il s'écroule avec ça. Soit au contraire, il se sert de ça pour se reconstruire. C'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est que, où il dit que c'est la fin d'un truc, où il dit que c'est le début du suivant. Et si tu te sers de ta douleur, peut-être un beau fort, mais de cette énergie pour construire plutôt que détruire, c'est un truc de dingue. Mais il faut avoir la sagesse de le comprendre et de le faire.
Einstein, il dit une phrase que je pense que tu peux aimer. Il dit que dans la vie, il y a deux types de personnes, ceux qui pensent que tout est un miracle, ceux qui pensent que rien n'est un miracle. Et en fait, les deux ont raison en soi. Par contre, ce qui se passe, c'est que celui qui pense que ce qui lui arrive, c'est une forme de miracle pour lui, il n'a pas la même vie derrière.
Non, exactement. Ou alors, je crois que Churchill disait, le succès, c'est voler d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. C'est exactement la définition de ce que j'appelle la résilience. Bah, tu continues, tu continues, tu continues. Et puis, après ça, voilà.
Et dans les startups que tu rencontres, est-ce que tu essayes de leur transmettre ce truc-là, de continuer Parce que j'imagine que tu vois des startups qui ont donné pendant 5 ans et ça ne marche pas.
Non, bah souvent je les vois au début, donc ils sont à la phase où c'est tout fou, c'est génial, c'est une bande de potes, ils ont envie de créer ce truc-là, ça marche, ils ont de l'argent, ils ne sont pas encore dans la notion d'échec. Puisqu'ils viennent de démarrer en général, moi je finance les boîtes très jeunes. Quand tu les revois 2 ans après, qu'ils disent « Ah putain, on voulait faire ça, mais ça n'a pas marché du tout, oh là là, c'est pas de ma faute. » Bon, et puis tu as ceux qui disent « Ça n'a pas marché, mais du coup, on a eu une autre idée, alors on va faire ça. » D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est que moi, je ne vois pas trop les dossiers, je ne passe pas ma vie dans les business plans, je n'ai pas le temps, j'essaye de juger les bonhommes. Donc, je vois s'ils ont de l'ego, s'ils ont de la colère, s'ils savent réagir quand ça ne va pas, etc.
Et tu cherches cet élément de douleur qu'il y a dans leur passé?
Non, mais j'essaie de voir ce qu'ils ont dans les yeux, pourquoi ils font ça, s'ils ont... Tu vois, s'ils ont une cause, une quête. Moi, si je vois un gamin qui me dit « je monte une boîte et mon but, c'est faire du pognon en inventant un pesticide qui va défoncer la forêt, mais qui coûte moins cher que l'autre », je vais lui dire « tu sais quoi, ton karma, c'est de faire du pognon, mais moi, c'est pas le karma de prêter le mien ». Il faut qu'ils aient un truc quand même, une valeur, un truc qui change le monde, qui l'améliore. Enfin, voilà. Donc déjà, pour voir ça, si j'ai ça dans leurs yeux. Et puis, tu as deux types de gens. Tu as les gens qui te disent « et » et les gens qui disent « mais ». Tu as un mec, tu vas lui dire « voilà, on va faire un... » C'est mon cas là, on va faire un vélo de dingue. Et ouais, on va faire ça. Alors, tu as deux cas. Tu as le mec qui dit, ah ouais, mais si on fait ça, ça va coûter cher. Mais si on met ça, on va le voler. Mais si on met ça, ça c'est les mais. Et puis, tu as le mec, tu lui racontes la même phrase. Il dit, ah ouais, mais on va mettre ça et ça. Et il va pouvoir faire ça et on va rajouter ça. Tu en as deux. Alors, ceux qui font des et, c'est les entrepreneurs. Et ceux qui font des mais, c'est les gestionnaires. Oui, mais ça coûtait cher, mais ça va pas se vendre, mais ça va être...
Donc, ça peut être un super directeur.
Mais ça peut être un super DG, mais le mec, faut pas qu'il lance une boîte. Parce que si tu lances des boîtes avec des mais, t'es sûr que ça arrivera jamais. Par contre, si tu laisses gérer une boîte avec un et, lui, t'es sûr qu'il va la mettre dans le mur, parce que chaque matin, il a une nouvelle idée. J'essaye de détecter les mais ou les... Si c'est un mais qui monte une boîte, ça va pas.
Tu leur dis d'ailleurs?
Non. Mais non, parce qu'ils écoutent pas. Parce qu'il y a une caractéristique d'un entrepreneur, c'est qu'il a un énorme ego. Mec qui est dans mon bureau, il a 23 ans, il t'explique qu'il a trouvé un truc de dingue. Si tu lui dis que ça n'a pas marché, il te dit « mais c'est toi qui as rien compris, papy d'ailleurs, il peut dire ». Il a raison. Donc, ils n'écoutent pas. Donc, c'est pas peine de leur dire.
Et une fois que tu as investi, par exemple, est-ce que tu observes que des fois, l'hyper-excitation de l'entrepreneur, jeune entrepreneur, ça lui fait faire des conneries qu'il ne ferait peut-être pas s'il était un peu plus centré?
Ouais, alors j'essaye. Après, dans les boîtes où on est vraiment impliqué, où je les connais bien, où j'aime bien le gars, j'aime bien le projet, où on se parle, de lui parler. Mais moi, j'ai plein de fois où j'ai des entrepreneurs à qui il a fallu que j'explique qu'il fallait qu'ils passent la main à un DG meilleur qu'eux. Je sais pas si tu vois le chemin que c'est. Le mec, il a eu son idée, il a démarré, il a levé des fonds, son truc, c'est son bébé, il est parti comme une fusée. Puis deux, trois, quatre ans après, tu lui dis, tu sais quoi, tu devrais t'occuper de parler dans les journaux et laisser gérer la boîte à un mec qui sait compter. Et là c'est la fusée. Moi, le premier, bon, ça a été compliqué de passer la main sur Mythique. Mais je l'ai très bien fait. Quand j'ai décidé de le faire, j'ai très bien fait. J'ai dit, voilà, tu sais quoi, maintenant, je comprends plus rien à ce qui se passe. Donc, tu mets un mec, ça gère. Et moi, je faisais le guignol dans les journaux. Mais c'est dur d'expliquer ça.
Et comment on trouve un DG? Parce que j'imagine que c'est pas évident.
Non, c'est super dur. Bah, c'est aussi dur que de trouver un bon entrepreneur. Hein. C'est des couples, c'est des histoires de rencontres. Moi, mon DG Mythique, Philippe Chaigneux, c'est une rencontre de dingue. Il était dans e-France, il est devenu mon DG. Après, j'ai fait Mythique, il est devenu mon DG. Après, on a fait Made.com, il est devenu DG de Made.com. Je veux dire, c'est des couples. Un entrepreneur, un DG, c'est les plus beaux couples du monde, enfin, dans le business. Donc, quand on en a un, il faut le garder.
Mais du coup, comment, là, imaginons que quelqu'un nous écoute et il cherche un DG, comment tu t'y prendrais?
Bah, déjà, il faut que le DG soit meilleur que le mec. Et que l'entrepreneur accepte que le numéro 2 soit meilleur que lui. Parce qu'à un moment donné, le numéro 2, c'est lui qui va gérer. Donc, il faut qu'il ait peut-être, on ne demande pas à un DG d'avoir plein d'idées. On demande de savoir gérer une boîte.
Donc, les chiffres?
Bah, gérer l'organisation, les équipes, les plannings, les machins, tout ce qu'on appelle la sûre, enfin, ce qui fait avancer le bateau. L'entrepreneur, il dit, vous savez quoi, les gars, on va faire un bateau, on va le faire comme ça, il va aller là-bas à telle vitesse. C'est tout. Et derrière, les mecs, ils font la coque, le machin, le truc, les moteurs. Pendant ce lot, il est encore en train de se dire, mais finalement, le bateau, s'il partait vers le haut, ça serait un avion, alors attention, il lui fout des ailes. Pendant que les autres sont en train de construire le bateau derrière. Et si tu dis à l'entrepreneur d'aller construire le bateau, le bateau, il coule dans le port, il démarre pas. Donc, c'est des couples compliqués.
Et à quel moment c'est le moment d'avoir un DG?
Bah, moi, je dirais que c'est mieux de l'avoir dès le début, parce que c'est bien d'avoir construit une histoire à deux dès le départ. Hein. Mais il y a un moment.
Donc, c'est un DG qui va être salarié, qui va avoir des parts.
Ouais. Souvent, c'est ça. Hein. C'est un gars qui a une idée, qui s'associe avec un CTO, qui est ingénieur, qui maîtrise bien la techno, mais qui est aussi structuré. Donc, bah, un vrai DG, t'en as besoin quand ça devient gros, c'est sûr. Mais c'est inévitable, quand ça devient très gros, t'as pas le choix. Il faut vraiment un mec qui prenne la barre. Et moi, je disais toujours, il y a un stade auquel tu dois accepter que tout le monde dans la boîte est meilleur que toi. La secrétaire qui répond au téléphone, la standardiste, le machin, elle
mission,
est meilleure que toi. Toi, tu saurais pas faire ce qu'elle fait. Donc, ton DG, tu sais pas faire ce qu'il fait. Il faut accepter que les gens soient... Parce que souvent, l'ego fait qu'il y a des entrepreneurs, malheureusement...
Qui choisissent des gens qui sont...
Qui prennent que des mecs moins bons pour rester le meilleur.
Et comment on trouve, entre guillemets, des génies dans un domaine? Imaginons, là, une start-up qui nous écoute. Comment on fait pour trouver... Les Américains, ils parlent de A-player.
Moi, j'en sais rien. Ce que je te dis juste, c'est qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la capacité d'attirer des gens meilleurs que lui. Finalement, ma seule qualité, je parle de moi parce que j'en ai là, mais je pourrais parler de n'importe qui. Mais c'est quoi ma qualité, moi? C'est d'attirer des gens meilleurs que moi pour bosser avec moi. Si je les traite mal, si je suis pas comme ci, si je suis pas comme ça, qui va venir bosser avec moi? Personne. Donc, la première qualité d'un entrepreneur, c'est de donner envie aux autres de le rejoindre. Mmh. C'est ça la qualité d'un entrepreneur. S'il n'est pas enthousiaste, s'il n'a pas des idées, si humainement, il donne envie ou pas, voilà. Qui a envie d'aller bosser avec une tête de con qui traite mal? Enfin, toi, personne. Donc, un entrepreneur, il faut déjà qu'il prenne ça en compte. Donc, après, ça vient tout seul. Alors, si tu es un mauvais entrepreneur, que tu es une tête de con, que tu traites mal les gens et que tu me demandes ta question, est-ce que je vais trouver un DG? Bah, je veux dire, j'ai pas l'emploi, quoi.
Il y a une question qu'apparemment t'as jamais posée, c'est est-ce que t'es heureux?
Ah ben non, on me l'a jamais posée celle-là. Parce qu'en fait, on la pose jamais en entrepreneur, parce que la réussite d'un entrepreneur, c'est le pognon. C'est complètement débile, mais c'est comme ça. Si ta boîte elle est en bourse, elle va valoir cher si tu gagnes et pas cher si tu gagnes pas. Mais par exemple, si je reprends mon exemple de pesticide, si je fais un pesticide qui défonce tout, qui coûte pas cher, ma boîte vaut cher. Si le pesticide il défonce rien, mais qui coûte plus cher, et donc il se vend moins, ma boîte va valoir moins cher. Mais j'ai créé plus de bonheur que d'argent. Donc le bonheur intérieur concret, c'est pas une valeur qui est prise en compte par la société aujourd'hui, en tout cas par le business. Bah, c'est pareil humainement. Un entrepreneur, on lui demande jamais comment il va ou s'il est heureux. On lui dit ça marche. J'étais heureux, on verra plus tard. Bon, bah, alors la réponse est que oui, je suis très heureux. Maintenant, ça a été long parce que je suis assez âgé pour avoir compris ma définition du bonheur, et chacun a la sienne, mais je suis heureux parce que je fais plein de choses et je fais que des choses qui me plaisent. Déjà, je finance des boîtes qui pour moi ont du sens. Après, je dirige des boîtes Parce que être uniquement investisseur, quand tu es entrepreneur, c'est compliqué. Donc, ça me manquait de ne pas diriger de boîte. Alors, je les dirige inégalement, hein. C'est compliqué. J'en ai plus raté dans ma vie que réussi, mais je dirige deux boîtes qui m'intéressent énormément. Sensi, mes lunettes. J'adore essayer de faire tomber le monopole des lunettes en France. Et je développe un vélo de dingue pour qu'il n'y ait plus de voitures dans les villes. Bon, ça, ça me passionne. Donc, là, je suis entrepreneur. Donc, une vie de financier, une vie d'entrepreneur. Ensuite, j'ai un troisième métier parce que tout ça, c'est bien beau, mais ça n'est que du business. C'est donc je fais du cinéma.
Tu fais quoi dans le cinéma?
J'ai deux boîtes de production de cinéma, une qui fait des films d'auteur, donc des films plutôt jolis, plutôt avec beaucoup de fonds, mais qui font en général plutôt pas beaucoup d'entrées, mais qui sont importants pour moi.
Et tu arrives à rentabiliser, du coup, comment c'est
bon, quoi? Le but, c'est de récupérer ce que j'ai mis et quand je gagne, de pouvoir financer ceux où j'ai perdu. Voilà. Mais c'est des films qui, par définition, ne peuvent pas, sauf miracle. Par exemple, on a fait Mademoiselle de Jonquière, un texte de Diderot de dingue avec Édouard Baird, Cécile
c'est
de France.
C'est toi qui choisis le réalisateur?
Ah non, moi là, je suis coproducteur dans cette boîte-là. Donc, je finance des films avec des gens qui font ces films-là et je les aide. Et puis, par ailleurs, j'ai une deuxième boîte qui s'appelle Super 8, où là, on développe des films qui nous tiennent à cœur, où là, on les produit, on les lance, on les tourne, et on tournera. Tout ça est au futur parce que les premiers films seront tournés en 2019.
Qu'est-ce qui te plaît dans le cinéma?
Bah, ça donne du sens, tu vois, quand tu fais un film et qu'on va faire un film sur la jungle de Calais ou sur les événements au Rwanda ou sur le phénomène de l'e-sport en France, tu racontes des trucs, tu essaies de changer un peu le monde.
Et tu as un rêve par rapport au cinéma dans les 5-10 ans qui viennent, un truc qui serait fou à réaliser pour toi, enfin à produire du coup?
Bah, je rêverais d'écrire un film. Ça sera un rêve personnel.
Donc, que tu l'écrives?
Ouais, enfin que je parte d'une idée, qu'on arrive à écrire l'histoire ou le livre ou l'histoire après. Voilà.
Qui serait sur quoi d'ailleurs?
Ben, j'ai plein de sujets, pour l'instant j'ai pas choisi. Puis, je crois que je suis pas capable, mais enfin bon, voilà, tout ça, ça va mûrir, on verra bien si un jour je m'y lance. Voilà, donc moi j'ai quatre métiers, hein. Investisseur, des vélos, des lunettes et du cinéma. Et comme je travaille à mi-temps, quand je travaille, c'est beaucoup de travail. La semaine où je travaille.
Quand tu dis que tu travailles à mi-temps, c'est-à-dire une semaine sur deux?
Normalement, moi je travaille qu'une semaine sur deux. C'est aussi un quatrième ingrédient du bonheur, c'est que bah, quand tu as une semaine sur deux où tu peux faire ce que tu as envie, c'est un belle chance que tu as dans la vie dont il ne faut pas la laisser passer. Parce que par ailleurs, j'ai des enfants, parce que par ailleurs, j'ai une vie, donc il faut bien que je m'en occupe aussi. Il ne faut pas que travailler.
Donc ça fait depuis quand d'ailleurs que tu as trouvé ce rythme-là?
Depuis que j'ai vendu Mythique. Ça fait 10 ans maintenant. Alors bon, 10 ans, j'ai tâtonné, hein. J'étais que investisseur. Après, j'ai dit, bon, il faut que je crée des boîtes. Donc, il m'a fallu 10 ans pour construire une espèce de truc qui tient à peu près debout, qui me rend très heureux.
Et il y a plusieurs choses là que je trouve super passionnantes dans cette idée. Comment on passe d'une vie où on travaille 18 heures par jour sans vacances? Comment on peut s'y prendre pour arriver à faire cette transition entre une vie à 18 heures par jour sans vacances pendant 10 ans à une vie où tu arrives à créer
Je vais te donner un secret. Quand on vieillit, on reste jeune.
Tu me l'expliques?
Quand tu vieillis, tu te dis je vieillis. Mais en vérité, ta tête, elle reste pareille. Donc ton corps vieillit, tout ça vieillit. Mais toi, ton enthousiasme, c'est le même. Ne pas négliger sa famille, pas négliger ses amours, pas négliger son corps, on peut le faire dès qu'on a 20 ans. Il faut juste le mettre dans le crâne en disant mon corps, si je m'en occupe, ma famille, mes enfants, mes amours, ça va durer toute ma vie. Donc ça, je ne peux pas le négliger jamais. Même si je bosse comme un dingue. Moi, quand je bossais chez e-France, je travaillais comme un taré, je ne dormais jamais. Mais tous les soirs, je dînais avec mes gosses, tous les soirs, je les couchais, tous les matins, je leur faisais le petit déjeuner. Après, que je travaille 20 heures derrière, ce n'était pas leur problème. Mais moi, ils ont vu leur père comme si j'étais un fonctionnaire. Bon, pourquoi? Parce que moi, le mien, je ne l'avais jamais vu. Donc, du coup, c'est facile. Bon, ça, on peut se le mettre dans le crâne dès le début.
Et le sport, t'arrivais à en faire déjà?
J'ai arrêté le sport pendant 25 ans. J'ai arrêté de bouquiner alors que c'était ma passion. J'ai fait plein de sacrifices pour mon travail. À un moment donné, on ne peut pas tout monter de front. Mais le truc, c'est que le jour où on est arrivé professionnellement dans un état où on pourrait reprendre ce qu'on a abandonné, moi, j'ai bossé comme un dingue. Je me mets à la tête d'un, je sais pas quoi, ça peut être un salarié d'ailleurs ou un entrepreneur. Il a bossé comme un dingue. Il arrive à un moment où ça y est, ça marche. Et là, il a deux options. Soit il dit, je pars, je vais encore plus loin et je rebosse. Encore comme j'ai fait là, en sacrifiant tout, mais pour aller plus haut. Cas numéro un, il va mourir le plus riche du cimetière. Soit il dit, voilà, moi j'ai arrivé à un niveau où mes rêves sont là, j'ai pas besoin de plus. Par contre, maintenant je néglige plus ma famille, mes amours, mon corps, ma tête et ma culture. Mais dans ce cas-là, il se met dans un état où il a ce qu'il a, mais il renéglige rien. Mmh. Donc, t'as deux, mais c'est très personnel. Hein.
J'imagine que tu connais des amis ou des connaissances entrepreneurs qui, 60 ans, sont toujours en train de 18 heures par jour.
Toujours, c'est leur vie. Ils seront les plus riches du cimetière.
Et quand tu leur dis, ils t'écoutent pas du tout ou ça?
Ah, ils m'écoutent pas, mais après, je m'aperçois qu'ils ont un peu écouté. Je dis, tiens,
plus de sport.
J'ai l'impression qu'il est en vacances. Je dis, tiens, c'est bizarre, c'est pas l'heure des vacances, il est en vacances. Je trouve ça formidable. Parce que franchement, qui va bosser toute sa vie juste pour être le plus riche du cimetière? Sans profiter de rien.
Est-ce que tu pourrais nous parler d'un des moments, tu en as parlé plusieurs, mais du coup, un des échecs les plus difficiles pour toi et qu'est-ce que tu te disais justement pour être résilient en fait?
Alors, franchement, les plus difficiles humainement, c'est quand tu es obligé d'annoncer à des gens avec qui tu as bossé qu'il faut qu'ils partent.
Voilà,
tu as une équipe et puis ça marche pas, la boîte marche pas.
Tu parles des gens où tu es content de ce qu'ils font, mais c'est que tu n'as plus assez d'argent.
Tu peux pas. Ça, c'est terrible. Franchement, c'est même tellement terrible que dès que tu as les moyens de payer quelqu'un qui le fait, c'est très lâche. Mais créer un truc avec une équipe, se donner, machin, se passionner pour un sujet, puis ça marche pas, et t'es obligé de dire, les gars, je suis désolé, mais il faut y aller parce que ça marche pas, c'est horrible. Que ce soit 1, 2, 3, 10, 50, hein, c'est la même douleur, hein, c'est horrible. Donc ça, c'est des échecs très durs. Et puis, échouer dans un projet qui te tient à cœur, c'est super dur. Moi, je me souviens d'avoir voulu financer des dameuses de piste françaises, des machines de 10 tonnes avec des moteurs diesel de 600 chevaux. Bon, parce que j'avais cette idée, ce projet. Et quand on a racheté une usine, enfin reloué une usine abandonnée, qu'on a retapé, rééclairé, réindustrialisé, et allumé un matin, et bouf, l'usine s'est allumée, et les ouvriers ont commencé à fabriquer. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire d'arriver dans ce pays à rallumer une usine. Il a fallu que je l'éteigne 3 ans plus tard. Mais ça a été un échec terrible. Mais bon, encore une fois...
Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi, c'était que les gens...
Bah, c'est d'avoir rêvé d'avoir allumé une usine et d'être obligé de l'éteindre. Bon, je m'en fous, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais bon, voilà, c'est mon métier, j'en gagne, j'en perds. Bon, voilà, ça m'a pas touché. C'est même pas d'avoir été vexé de pas y être arrivé, parce que, bon, ok, j'aurais préféré défoncer les Autrichiens, les Allemands, mais je suis pas arrivé, bon, ok. Mais d'avoir eu le rêve d'allumer une usine et d'avoir eu le cauchemar de l'éteindre, c'est dur, quoi. C'est dur pour les gars qui bossaient là, parce que c'est dur, quoi. Échouer, c'est super dur.
Alors, qu'est-ce que tu conseillerais quand on est en train d'échouer pour...
D'être résilient.
Alors, comment on fait?
Il faut essayer de détacher le perso du business, quoi, en disant, bon, alors attends, est-ce que c'était vraiment une merde d'avoir échoué ou est-ce que vraiment, 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 t'as fait tout ce que t'as pu? Chaque fois que j'ai échoué, on peut vous dire des tas de trucs sur moi, hein, que j'ai merdé plein de trucs, que plein de fois où j'ai échoué, et c'est vrai, et j'en ai raté des tonnes. Mais il y a un truc que personne ne vous dira jamais, c'est que je ne suis pas allé au bout du bout du bout du bout de tout ce que j'ai pu. Voilà. Et puis parfois, j'y suis pas arrivé. Si vous êtes sûr que vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir, l'échec, vous le vivez plutôt mieux. Si vous dites, j'ai foutu, j'ai pas essayé, j'ai pas osé, j'ai pas machin, vous en prenez une partie perso, parce que l'échec professionnel déteint sur votre intimité. Ouais. Donc, faut vraiment que ce soit coupé. Pour que ce soit coupé, c'est j'ai fait tout ce que j'ai pu. Après, ça n'a pas marché, Mais il y a plus de choses dans la vie qui ne marchent pas que de choses qui marchent.
Dans un jour comme ça où tu te lèves et tu te sens, t'as un peu envie d'abandonner, tu te disais quoi? C'est quoi tu te disais dans ta tête?
Pour faire quoi? J'étais un programmeur de merde, j'avais pas un rond, j'avais pas de maison. À quel moment j'avais le luxe de dire j'ai abandonné pour faire quoi? Donc je pouvais pas abandonner, j'avais pas le choix. J'étais sur un toboggan, j'avais pas le choix que de descendre. Le mec qui peut abandonner, c'est qu'il a une sortie de secours, un escalier qui le ramène quelque part. Quand t'es sur un toboggan, t'as pas le choix, tu descends.
Hein, tu parles quand t'avais les dettes de Mythic
Park. Tout, depuis le jour où je suis parti de chez moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu le choix.
Ça t'arrivait pas de te dire, je vais redevenir salarié ou...
Mais non, parce que je savais que j'étais un mauvais salarié. Je savais que je pouvais pas... J'étais un mauvais salarié, moi, j'écoute rien. Quand on me dit d'aller à droite, j'ai la tête ailleurs. On me demande de mettre des chiffres, je me plante. Tu vois, salarié de quoi? Si, j'aurais pu être à l'accueil où je portais des caisses. Ça oui, je l'ai fait. Pendant 6 mois, j'ai fait ça. J'ai dit, j'étais même un bûcheron, j'étais nul. J'étais pas assez musclé et je m'écroulais sous les arbres. Donc, j'avais pas le choix. Donc, je continue. C'est bien de pas avoir le choix. C'est dur, mais c'est bien.
À l'école, je crois que tu as redoublé, c'est ça?
Je n'ai pas du tout adapté à l'école. Genre.
Et du coup, les profs, ils te disaient quoi? Est-ce qu'ils te disaient, tu vas pas y arriver
J'en sais rien parce que je leur ai jamais parlé et c'est réciproque, sauf un. Qui m'a donné qui a été la plus belle chance de ma vie pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le seul qui m'a Bon, il faut que j'en mette dans le contexte. Moi, quand j'avais 15 ans, il y avait qu'un seul truc qui m'intéressait, c'était la poésie. Me demande pas, c'était comme ça. Donc, je lisais toute la poésie qui existait. Je sais pas pourquoi j'avais ce truc-là.
Bon, bref. Mais quelque part, tu le reviens dans le cinéma, cette forme d'art qui
oui,
te plaît.
Oui, maintenant, je m'en resserre beaucoup. Mais à l'époque, mon père était mathématicien, ma sœur était financière, mon frère était ingénieur, et mon père, il disait, lui, c'est un poète. Mais un jour, il y a un prof qui m'a convoqué parce que j'avais décodé en classe et qui m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai dit, bah, je lis la poésie. Il m'a dit, ah bon? Et on a parlé de poésie pendant 4 heures et c'est devenu, ce mec-là m'a donné la passion de la littérature. Bon, ça, je l'avais un peu avant et merci parce qu'il m'a, mais surtout, il m'a montré que quand un prof est bon et qu'il écoute la singularité d'un élève, même si elle est complètement dehors des clous, alors il lui donne une valeur et là, le gamin, il se met sur les rails. Parce que si un gamin, tu lui expliques qu'il est nul en tout, et que son truc, c'est le hip-hop, ou graffer un machin, ou jouer sur un jeu vidéo, et que tu considères que ça, c'est de la merde, parce que ça rentre pas dans les cases de l'éducation nationale, ce que t'expliques à un gamin, c'est que c'est une merde. Mais si tu dis, putain, c'est génial, hein, tu joues à tel jeu, t'es dingue de ce truc-là, mais vas-y, explique-moi. Le gamin, même si c'est pas éduqué, tu le remets dans un truc où il y a un référent qui lui donne une valeur. Et ça, ça lui donne une énorme confiance en lui. Et du coup, il se dit, ah bah c'est génial, parce que j'ai réussi à être considéré dans ce truc-là. Mais maintenant, si j'apprends mon histoire et ma géo, on va peut-être m'aimer pour ça, et en fait, tu vas le remettre sur les rails. Sauf que l'éducation nationale, elle, c'est pas son boulot de faire ça. Mais de temps en temps, il y a un génie, un prof.
Il le sait?
Bah, je l'ai remercié dans mon livre, je le remercie à chaque fois que je peux. Évidemment, j'ai oublié son nom, mais c'est au lycée Carnot, à Chalon-sur-Marne. Et j'espère qu'il se retrouvera. Et il était ambassadeur, je crois, au Laos. Donc, il se retrouvera encore plus. Un ancien ambassadeur du Laos. Il était chauve. Donc, monsieur, si vous regardez ça,
mettez un commentaire.
Je vous remercierai jamais assez, quoi, de m'avoir donné cette impulsion qui m'a probablement beaucoup, 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 beaucoup aidé.
Donc là, tu as vu dans les yeux d'un adulte, à ce moment-là, j'ai de la valeur, en fait.
Ouais. Parce que j'étais au même niveau que lui sur la poésie. Donc, ça y est. Moi, j'étais dernier de toutes les matières, de toutes les classes, de tous les lycées. Sauf en sport.
Et à quel moment t'as su je vais entreprendre?
Ah ben écoute, je pensais à ça la dernière fois.
T'arrives pas à retrouver?
Si, non, mais je me rappelle au lycée quand j'avais dû redoubler déjà deux fois, donc je devais être en première. Et je sais plus, on était avec des potes, on devait organiser un truc. Et il y a un pote qui était venu me voir, il m'a dit c'est toi qui dois organiser le truc. Et je lui dis pourquoi c'est moi qui organise le truc? Il m'a dit parce que toi c'est ton truc d'entraîner les gens. Il m'avait dit ça, j'avais pas compris pourquoi il m'avait dit ça, mais il avait dû voir que j'étais grande gueule ou que les gens m'aimaient bien. Voilà. Donc c'est peut-être ce jour-là que je me suis dit, ah ouais, peut-être que mon truc c'est d'entraîner des gens.
Est-ce que tu penses que c'est ça un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entraîne les gens?
Oui. Bah, il entraîne tout le monde. Déjà, il entraîne son associé, il entraîne ses associés, il entraîne ses clients, t'entraînes pas tout le monde, tu fais quoi? Un entrepreneur, c'est être suivi par les autres. C'est au sens, c'est pas péjoratif. Il les emporte, quoi. Mon produit est génial, faites le produit génial avec moi, donnez-moi le pognon pour faire le produit génial, prêtez-moi l'argent pour faire... C'est quoi? C'est que ça, c'est du storytelling, c'est venez, on va faire un truc. Moi, je donne ma vision et mon enthousiasme. Je crois que si on arrive à faire un putain de vélo qui est tellement dingue que tu te donnes plus envie de l'acheter qu'une bagnole, on va en vendre plein. Voilà.
C'est ce que tu racontes en permanence.
C'est ce que je dis. Mais j'y crois, sauf que je mets dans ce vélo ce qu'il faut pour que ce soit le cas. Les équipes, elles peuvent venir, t'es gentil, bah, tu sais quoi, moi, vélo, je préfère ma bagnole. Bon, ben voilà. Mais je leur dis, non, les gars, réfléchissez deux secondes, les bagnoles, les machins, les PV, le prix, l'essence, tout ça, tu vois bien que c'est chiant au bout d'un moment, donc tu vois bien que, ah ouais, t'as raison, peut-être que si, tu vois. C'est une vision, il faut virer les bagnoles des villes, et un enthousiasme, c'est, les gars, c'est super galère à faire, ça va être une fortune, c'est un truc de dingue, mais on peut le faire.
Si on le fait, ça change le monde. Ouais.
Et le but, c'est que derrière, on essaie d'améliorer un peu le monde. C'est qu'il faut qu'on accepte de parler des échecs. Moi, mon bouquin, c'est que mes échecs. Mais c'est pas mes échecs, c'est la réalité. Je suis pas en train de dire, voilà, je vais me forcer le trait. C'est la réalité. Je me suis planté, j'ai fait n'importe quoi, c'était n'importe quoi, c'est une catastrophe. Et c'est une vraie histoire, à la fin. Bah, si je te la raconte en disant, j'ai monté 3 boîtes de dingue dans ma vie, et voilà, c'était... Bon, ok. Mais qu'est-ce que je raconte? Bah, c'est tous les échecs qui m'ont mené à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est pas les succès. Les succès, il y en a des bien plus gros, il y en a des bien plus petits. Ce qui est intéressant, c'est comment en échouant tout le temps, finalement, si tu as la résilience et si tu as de la chance, comment tu construis un succès? C'est quoi qui doit intéresser un jeune? C'est pas lui dire si tu as une idée de dingue, beaucoup d'argent et que ça marche, tu seras riche. Ouais. Bah super, il a appris quoi le gosse? Si tu lui dis, attends, mon gars, c'est pas du tout ça. Si tu vas merder là, tu vas merder là, tu vas... Mais si tu es malin, tu vas te servir de tes échecs pour t'améliorer et à chaque échec, tu vas progresser. Et à la fin, tu seras super bon parce que tu auras fait tellement de conneries. T'en aurais plus à faire, là c'est une vraie histoire. Donc il faut accepter l'échec.
Il y a une question qui me fascine, il y a une notion que j'avais lue, c'était peut-être un biographe sur Steve Jobs, il parlait de la distorsion de la réalité, que les entrepreneurs, ils distordaient la réalité de leur présent. Comment tu fais la frontière entre « j'ose réinventer le monde et je suis un peu fou » et la frontière où tu deviens vraiment fou et tu n'as plus les pieds sur terre? Comment on fait?
Tu te méfies de ton ego. Il faut se méfier de son ego, parce que c'est l'ego qui fausse la réalité. C'est que tu penses que tu as tellement raison que tu vois même plus la réalité. Tu vois, et à un moment donné, tu es tellement convaincu que tu as raison que ta dameuse, elle démarre pas dans la neige, mais toi, tu penses que c'est parce que c'est qu'on n'a pas encore tout imaginé, que si c'est pas de ma faute, tu vois, et à la fin, tu t'aperçois pas que ta dameuse, elle peut pas marcher, quoi. Parce que ton ego tord la réalité. C'est que tu penses que tes rêves sont plus réels que la réalité. Donc, il faut se méfier de l'ego. À un moment donné, c'est vrai que tu en as besoin parce que c'est un moteur de dingue. Mais ça peut aussi devenir un truc très difficile à gérer, quoi.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de dire « Ah, attention, là, je suis dans mon ego. » De t'en rendre compte.
Bah, pas assez.
Mais est-ce que, en tout cas, plus qu'il y a 20 ans déjà.
Ah oui, plus qu'à 20 ans, ouais.
Alors, comment tu sais, en fait? Comment tu es capable de te dire « Attention, là, ça sent mon ego, là. »
Bah, je le sens. Je me dis « Oh, putain, tu déconnes. Tu sais très bien que c'est pas vrai. T'es en train de te raconter une histoire. Tu sais très bien que ta dameuse, elle a pas démarré parce que ton moteur, il marche pas, quoi. » Tu vois, donc il y a, ouais, ok, mais c'est pas simple. Parce que je dois avoir un gros ego. Parce que peut-être que la résilience, elle a besoin de s'appuyer sur un gros ego pour tenir debout. Mais c'est pas si facile que ça. Mais il y a plein d'entrepreneurs que j'ai vus qui se sont assis très vite sur leur ego. Qui sont partis là, ça a pas marché. Ils ont dit, ok, tu sais quoi, moi, on s'est trompé. Ils sont venus me voir, on s'est complètement planté. Ça marche pas. L'idée qu'on a eue a pas marché, mais on en a eu une autre. On va partir par là. Et c'est super, tu vois, parce que si leur ego aurait dû me dire « Non, mais on va y arriver, on continue par là-bas. » Et parfois, ils font demi-tour et c'est pas mal.
D'ailleurs, tu as dit un truc, que j'adore cette idée d'aller au bout des choses pour au moins quand tu as l'échec, tu sais que tu as tout donné. Comment tu fais la différence entre « je m'obstine dans un truc » et « entre guillemets, je suis en train de m'obstiner pour rien » ?
Parce qu'il faut avoir le truc, il faut être sûr que l'île sur laquelle tu voulais envoyer ce putain de bateau que tu construis, elle est toujours là. Et que c'est plus le mirage de l'île. Parce que si tu dis, je sais pas moi, je vais lancer un appareil de dingue, parce qu'il y a un besoin. Le besoin, c'est l'île. Tu dis, voilà, il y a un besoin, je vais... et c'est ça qu'on vise. Et tu construis ton truc pour combler ce besoin, sauf que plus tu avances dans le temps, plus le besoin soit disparaît, soit est pris par un autre qui a fait le produit, tu vois. Et donc, à la fin, ton but, il a disparu. T'es pas arrivé à temps, t'es pas arrivé avec le bon produit, t'es pas arrivé avec le bon prix, mais l'île a disparu. Et tu continues. Tu continues parce que t'as fait tout le chemin et tu dis, j'ai pas fait tout ça pour arrêter, mais t'as avancé vers un truc qui n'existe plus. Donc là, si t'es pas capable de dire, je me suis planté, j'étais trop lent, j'ai pas été assez bon, j'ai pas eu de chance, tu mets ce que tu veux. Mais ouais. L'île, en vérité, je sais qu'elle est plus là, il vaut mieux arrêter les frais, bah tu continues pour rien. Donc il faut pressentir ce truc-là. Sinon, tu t'embourbes et tu vas jusqu'au bout. Mmh. Et tu rates l'île. C'est ce que j'ai fait avec mes dameuses. Et je pensais que...
C'était combien de temps les dameuses?
Bon, je sais pas, il y a 5-6 ans, mais tu vois, j'ai continué, j'aurais jamais dû, quoi. Je me suis dit, voilà, les Français achèteront jamais des dameuses françaises. Parce que c'était ça mon île. Il y a des stations françaises de partout, si tu leur fais une dameuse française, ils vont l'acheter. Bon, rien à foutre d'acheter une dameuse française, les stations de ski. Ils acheter une dameuse pas chère, pas une dameuse française. Et moi, je me disais, mais les mecs, ils sont quand même un truc pas théorique, ils vont quand même nous aider. Enfin, une seconde.
Comment imaginons qu'on est dans le même contexte? Et je me dis, tiens, mon produit, c'est génial, les Français vont l'acheter.
Ben, j'ai même qu'avec mes lunettes.
Mais qu'est-ce que je... Comment...
Je fais des lunettes françaises, 3 fois moins chères, faites à la main, dans le Jura, truc de dingue. 3 fois moins chères que des lunettes chinoises vendues chez les opticiens traditionnels. 3 fois moins chères. Je me dis, les Français, c'est les mêmes lunettes, elles sont super jolies, c'est une marque branchée. Ils les payent 3 fois moins chères et ils n'ont rien à foutre, ils vont acheter des lunettes chinoises.
Pourquoi cette fois?
Mais parce qu'il ne faut pas compter sur le patriotisme des gens pour faire du business, c'est tout. Dans des dameuses ou dans des lunettes. C'est terrible, c'est ça, mais c'est comme ça.
C'est pas quelque chose qui aujourd'hui a suffisamment de valeur pour un Français moyen.
Eh ben non. Donc moi, l'île qui est les Français vont être contents d'acheter des lunettes françaises, ça n'existe pas.
Donc c'est comment la nouvelle île alors?
Eh ben, je me dis, ils vont être contents d'acheter des lunettes 3 fois moins chères. Mais ils n'en ont rien à foutre, ils sont remboursés par les mutuelles.
Alors donc, tu fais comment du coup?
Eh ben, j'attends qu'ils soient obligés de payer leurs lunettes.
Mais là, ça va arriver?
Bah, au 1er janvier, tu vas commencer à plafonner des lunettes à 100 euros. Après, tu peux en avoir qu'une paire tous les 2 ans. Donc, la deuxième paire que tu vas acheter, tu vas devoir la payer de ta poche. Puis, en 2020, tu vas avoir des lunettes à 30 euros. Mais ça m'a pris 7 ans à me battre contre les forteresses qu'on avait mis devant moi. Mais l'île, elle existe toujours. Le jour où les Français paieront leurs lunettes, ils seront contents de ne pas les payer cher. Mmh. Et peut-être, ils seront encore plus contents si elles sont faites en France. Ça,
Et ça sera un bonus.
Pas s'emballer, quoi. Donc, quand tu as un mec qui te dit, j'ai acheté des lunettes chez le Tartempion, l'opticien du coin, faites en Chine à 4,50€, et que le mec, il te la vend 300€, ils sont contents avec ça. Qu'est-ce que je te dise? Moi, je dis, bah, c'est terrible. Mais ils ont raison, c'est les clients. Je dis rien. Mais je pense qu'un jour, j'aurai raison. Peut-être que je serai mort, hein. Mais l'île, elle est toujours là-bas. Sinon, je ne m'obtiendrai pas.
Il y a des gens, je vois beaucoup de personnes dans mon audience qui m'écrivent en me disant ce qui me fait peur dans l'échec, c'est pas seulement l'échec lui-même, c'est le regard des autres.
Ouais, mais il faut les emmerder, les gens, parce qu'à un moment donné, tu vois, c'est que ceux qui n'ont rien fait, qui n'ont rien raté, quoi. Moi, enfin, je veux dire, je ne suis pas à revendiquer en me disant « super, les gars, moi, je me suis planté ». Mais tu dis, mais tu sais quoi, mais tais-toi, quoi. T'as fait quoi, toi, pour te planter? Bah, t'as rien fait, donc tu n'étais pas planté. Tout le monde se plante, quoi. Quelqu'un est jugé, quelqu'un qui se plante, c'est typiquement français. C'est ce que j'ai dit une fois, on ne supporte pas l'échec en France parce qu'on ne supporte pas la réussite. Ça va avec, hein. Je pense que si les Français acceptaient la réussite, ils commenceraient à accepter l'échec.
Si tu as aimé ce podcast et ce type de contenu avec des entrepreneurs au parcours incroyable, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, on a créé une vidéo qui recense les 6 clés indispensables pour scaler ton business.
Donc aujourd'hui, j'ai développé tout un set de techniques pour aider les entrepreneurs que j'accompagne à bien sûr garder la foi, conserver cet optimisme de « je vais y arriver, je peux le faire, j'y crois », mais en même temps, être capable de manière, ce qu'on pourrait appeler un pragmatisme pessimiste ou le pessimiste pragmatique, c'est-à-dire voir les obstacles et les anticiper de manière le plus calme, centrée et stratégique possible. Charlie Munger a ce qu'il appelle la technique de l'inversion. La technique de l'inversion, c'est de faire presque contre-intuitivement l'opposé que de visualiser que ça va bien se passer.
Si tu veux découvrir ces 6 clés contre-intuitives qui vont te permettre de booster ton business, regarde la vidéo gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode.